On l'a dit et répété, en 15 ans, l'histoire de la gendarmerie s'est développée à une allure telle que la tentation est grande pour le chercheur engagé dans ce chantier qui fut pionnier de revenir sur son propre parcours. Mais pour ne pas verser dans ce genre de bavardage, je vais me consacrer à d'autres retours d'expérience, ceux des officiers qui ont implanté la gendarmerie dans l'Europe napoléonienne. Poursuivons l'œuvre de Clive Hemsley et de Michael Bruce. J'ai analysé, dans un livre qui vient de sortir, Servir Napoléon, les dynamiques expansionnistes du corps. Il reste à interroger désormais la nature de l'impérialisme qui anime les gendarmes. La formation d'un empire européen relève en effet d'une entreprise collective et parfois contradictoire, comme le laisse entendre la prise en compte de voix singulières. Que Napoléon n'ait pas été le seul à vouloir et à penser l'Empire, que ses ministres n'aient même pas toujours réussi à faire prévaloir leur manière de voir l'Empire, de le faire vivre à l'égard des fonctionnaires expatriés, tel est l'autre apport des travaux de Michael Bruce. La différence ne se borne pas au décalage classique entre théorie vue du centre et pratique à l'épreuve du terrain, mais la différence affecte le projet d'ensemble. Et dans cette perspective, les gendarmes ont eu, si ce n'est leur mot à dire, du moins, ils ont eu une expérience des annexions qui rend précieux leur regard, puisque ces annexions représentent pour eux davantage qu'une circonscription de travail, c'est d'abord et avant tout leur cadre de vie. Mais pour accéder à une subjectivité, mieux pour analyser une réflexivité, il convient de s'appuyer sur des sources d'ordre privé. Or, n'en déplaise un petit peu à une certaine paresse historiographique, il ne s'agit pas d'un vœu pieux. Par exemple, on connaissait l'autobiographie de Médard Bonnard, parue en 1828 et rééditée par Édouard Hébel et Gildas Le Petit, mais j'ai eu le plaisir de découvrir aux archives de Maine-et-Loire le livret de correspondance de cet officier de gendarmerie. Et de juillet 1805 à octobre 1812, ce sont 528 feuillets qui contiennent le brouillon de 321 lettres adressées à 80 destinataires. Alors certes, cet officier prudent et perfectionniste était déjà dans ses lettres tel qu'il a voulu se montrer pour la postérité. Et pourtant, certaines de ces lettres ouvrent des brèches. Je vous ai mis un exemple. Pour couper court à une rumeur de banqueroute, il est trésorier de sa compagnie de Maine-et-Loire. Il en appelle à ses supérieurs. Alors, dans ses mémoires, il sélectionne une lettre, celle qu'il écrit à son colonel, le colonel Noirot, en termes très dignes. Il pourrait se faire qu'on voulût vous indisposer contre moi, car vous savez que la calomnie est ingénieuse à verser ses poisons en abondance. Le style est beaucoup moins polissé dans une lettre au capitaine Belleville. Or, celle-ci ne figure qu'aux archives, n'a pas été éditée. Elle commence par ces mots. « Mon capitaine, foutez-moi donc une calotte à ce cochon-là. » Donc, la subjectivité s'exprime de façon beaucoup plus libre dans la correspondance. C'est en Espagne que Bonnard a participé à l'expansion de la gendarmerie, mais ce type de découverte encourage à prospecter pour retrouver les écrits de ses collègues qui, ailleurs, ont construit l'Empire, quitte, pour trouver un petit peu ses paroles, ses bribes de vécu, à regarder aussi du côté de leur entourage. Un exemple qui m'est cher, c'est Auguste Jubé. Auguste Jubé, qui était préfet de la Doire, un département au nord du Piémont, Auguste Jubé entretenait une correspondance très suivie, très intime, avec deux chefs d'escadron de gendarmerie, son frère Charles et Mahoudo, qui était un ancien compagnon d'armes. Et leurs lettres éclairent les dessous d'une gendarmerie dont ils savent jouer, de façon en privé, de l'image, à l'instar de Charles Jubé, qui depuis le Piémont, vous le voyez, c'est la citation en blanc, cache ses informateurs parisiens en reprenant de façon héroïque-comique les pensives sur son corps. La gendarmerie voit et prophétise, il joue sur l'image de la gendarmerie, son réseau de correspondance, détourné à des motifs privés. Donc voilà, les gendarmes peuvent avoir un retour sur leur pratique, leur expérience, leur réputation. Si j'insiste sur cet angle méthodologique, sur cette question des sources, c'est parce que s'en tenir aux sources de l'institution aboutit à une histoire institutionnelle qui passe à côté de l'essentiel et qui, dans notre cas de figure, est impropre à saisir, ce qui est essentiel pour la période napoléonienne, c'est-à-dire le passage de la gendarmerie nationale à une gendarmerie impériale. Et par impérial, je ne renvoie pas seulement au changement officiel d'épithète qui survient en 1804 pour s'adapter au changement de régime, mais ce qui m'intéresse, ce sont les répercussions de l'élargissement territorial. Or, cette mutation, ce changement d'échelle, il ne se traduit ni dans l'énoncé des missions de la gendarmerie, ni dans son organisation, au-delà de l'addition de nouvelles légions au fur et à mesure qu'on annexe des départements. Mais si la gendarmerie reste nationale dans son règlement, son personnel est déjà pour partie impériale. En 1811, les départements de l'intérieur, les 85 anciens départements, ne rassemblent plus que moins d'un gendarme sur deux. La gendarmerie, s'est internationalisée en quelque sorte. Les rangs de la gendarmerie se garnissent de Hollandais, de Romains, et des gendarmes nés français vivent dans des départements hollandais ou romains. Autrement dit, les gendarmes ne sont pas seulement les gardiens de l'Empire, ils en sont d'abord les habitants. Ils vivent une expérience impériale. On en prend conscience par le biais, par la question des règlements, mais par le biais des soucis matériels, des problèmes de communication, d'acclimatation, des problèmes de séparation de famille ou la formation de couples mixtes. Et les préjugés envers les habitants se renforcent ou s'étiolent en fonction du degré d'enracinement des gendarmes. Ce tournant impérial peut inquiéter, puisque tout en veillant à intégrer au sein des compagnies un contingent d'indigènes, environ le tiers, les autorités françaises veillent à garder la main, une main française, sur cette recomposition. Mais cependant, ce quasi-monopole des vieux Français sur les postes d'officiers est parfois renversé. On redoute alors une dénaturation de la gendarmerie qui, sous des chefs italiens par exemple, perpétuerait le policing à la mode péninsulaire, comme le révèle pour Rome la correspondance très confidentielle du préfet Tournon, préfet de Rome. Celui-ci confie dans une lettre du 3 novembre 1811, retrouvée un peu par hasard à Grenoble, les causes de l'impuissance de la gendarmerie avec une franchise telle qu'elle relativise l'intérêt des courriers officiels. De l'aveu de son auteur, les courriers officiels sont écrits pour la façade, pour la forme en quelque sorte. Et ce qui l'intéresse, ce préambule, c'est de tracer le portrait des officiers de gendarmerie. Les Philippis, les Pecci, les Melchiori, les Meda, les Cardini, les Borgia, qui commandent à l'italienne des gendarmes pour partie indigènes et qui, rattrapés par leur naturel, se comporteraient comme les sbires qu'ils sont censés remplacer. Et seule l'arrivée de Français, de vieilles roches à Rome, et le dépaysement des recrues romaines éviterait à la gendarmerie impériale de n'être rien d'autre qu'une gendarmerie indigénisée, colonisée par les indigènes. Aussi pénétrant soit-il, ce n'est là qu'un regard extérieur. Il reste à esquisser désormais le rôle impérial de l'officier de la gendarmerie. Alors pour cela, à partir des réflexions des officiers que l'on glane dans le type de documentation décrit, on se dégage trois dimensions en quelque sorte qui illustrent la prise de conscience de cette mue impériale. L'esprit de corps, tout d'abord, c'est le premier trait qui peut réunir cette documentation. Cet aspect, l'esprit de corps, a déjà été étudié dans la perspective de la reconstruction d'une identité collective et d'une efficacité opérationnelle au sortir de la Révolution, le tout dans l'optique centralisatrice qui est celle des ordres généraux du maréchal Mancey. Mais il manque une dimension, il manque le jeu des affinités humaines, et ce n'est pas seulement pour des raisons politiques, qu'à ce titre, les années 1814-1816 constituent une rupture majeure dans l'histoire de la gendarmerie, mais c'est aussi parce que le renouvellement du personnel à la suite des épurations a été tel que le compagnonnage qui sous-tend au quotidien l'esprit de corps a été brisé, ce qui rend toute une génération étrangère à ce qui est devenu, la gendarmerie. Et c'est en tout cas le prétexte du Turinois Brouzet, qui est rentré dans la gendarmerie, qui a servi depuis 1802 dans le Piémont français, puis dans les provinces illyriennes, pour réclamer le 10 juin 1815 une affectation dans la cavalerie et non plus dans la gendarmerie. Les motifs qui m'ont attaché pendant longtemps à l'arme de la gendarmerie n'existant plus, puisque je n'y ai plus les mêmes amis et les mêmes chefs. J'ai formé le projet de reprendre une autre carrière. Voilà qui pointe du même coup l'absence de patriotisme d'institution. Si des officiers indigènes comme ce Brouget choisissent de devenir français, ce n'est pas pour rester au sein de la gendarmerie. D'ailleurs, imprégnés par un imaginaire guerrier, les gendarmes ne développent guère la spécificité de leur service au sein de la gendarmerie, spécificité qui fait qu'ils ont construit à leur manière l'Empire, autrement. Et pour retrouver cette conscience de la spécificité du corps, il faut chercher dans les rapports d'inspection, lorsqu'est pointé, à propos de tel ou tel gendarme, le fait qu'il aime peu son état. Hein, on voit que les officiers sont conscients de cette dimension-là. L'idée d'un corps mal aimé, qu'est la gendarmerie au début du XIXe siècle, et un corps d'autant plus mal aimé lorsqu'il sert dans un département naguère étranger, est elle aussi récurrente. Hein, et finalement, cette hostilité, elle soude la gendarmerie. Elle conduit les officiers à couvrir leurs hommes en cas de plainte de la part des indigènes. Quand je dis des indigènes, c'est le terme qui est employé par les autorités napoléoniennes pour qualifier les natifs, les ressortissants du pays. Parce que ces plaintes, elles sont perçues, si ce n'est comme une atteinte à la domination française, du moins une attaque contre la gendarmerie dans son ensemble. L'impopularité du corps est expliquée par ces officiers par ces tâches répressives qu'elle doit accomplir. Et à ce titre, l'impopularité par les officiers sert aux officiers finalement de signe pour montrer l'abnégation et leur dévouement. Finalement, une mauvaise note devient une bonne note. Cette transfiguration, elle s'opère d'autant plus facilement qu'un esprit de mission, et c'est mon deuxième point, après l'esprit de corps, peut sublimer le service. De fait, les officiers sont convaincus de participer à une entreprise impériale. Et cette entreprise, elle dépasse la bonne exécution des fonctions réglementaires pour œuvrer à un projet intégrateur, un projet qui lie entre elles les populations de l'Empire en les pliant à un ordre normatif commun. Placé à la tête des compagnies nouvellement créées, et à ce titre chargé de les imposer auprès des autorités locales et des populations, les commandants des nouvelles compagnies assument la tâche délicate de tête de pont, man on the spot, pour reprendre la nouvelle histoire impériale britannique. De fait, l'annexion d'un territoire ouvre une période transitoire, durant laquelle de multiples obstacles se dressent contre l'ordre français. Des officiers énergiques, intransigeants, sont alors nécessaires et ils sont comme déliés de leur subordination à l'autorité civile. Cela reste temporaire, dans la mesure où la pacification des nouveaux territoires ne doit pas se borner à la sécurisation des routes, mais à terme, elle doit déboucher sur une normalisation, c'est-à-dire la régularisation des pratiques. Désavoués et indésirables, les hommes à poigne sont alors missionnés dans les nouvelles frontières de l'Empire. La faculté de Brouzet, que l'on a évoqué, ça facilitera l'attention, de se réadapter, sa faculté à se réadapter aux normes de l'ancienne France est mise en doute. C'est du moins ce qu'insinue Moncey pour s'opposer à la première demande de cet officier revenu d'Illyrie, dans les provinces dalmates, de reprendre du service dans la gendarmerie de la première restauration, parce que son excellence ne lui croit ni le caractère, ni l'esprit de conduite nécessaire pour le service de la gendarmerie en France. Voilà. Autrement dit, les officiers qui ont été envoyés dans les confins de l'Empire sont suspects de ne pas pouvoir être réinsérés dans le cours quotidien des missions. Mais cela tient du prétexte, puisque la bipartition frontalière entre l'ancienne France et les nouveaux départements n'offre qu'un repère théorique. L'entreprise de domestication s'observe aussi dans la vieille France, dans l'Ouest et dans le Midi à l'époque de Napoléon. Esquissé par Michael Brose, ce paradigme de la frontière enjambe les frontières géopolitiques et elle trouve dans les mots à la fois fiers et amers de Charles Jubé une formulation fidèle à sa double dimension. Il y a une double dimension en effet, elle est valorisante d'une part parce que la mission de la gendarmerie aboutira en quelque sorte à une orthopédie des comportements et par là à une amélioration morale des administrés. Mais également, c'est une dimension décourageante, puisque dans le cas d'un empire en mouvement, qui va jusqu'à 130 départements, l'œuvre est à recommencer sans cesse. Apprenant sa mutation de Coni dans le Piémont pour Draguignan dans le Var, le colonel Jubé avoue sa lassitude. « Je tombe de Caribe en Scylla, je quitte de mauvaises gens qui commençaient à s'humaniser pour me retrouver avec de plus mauvais encore. J'aurai ma parole d'honneur, passer la moitié de ma vie avec les sauvages. Par la suite, ils l'ont envoyé dans un nouveau franc-chaud de l'Empire, la Toscane, l'arrière-pays toscan. Et c'est un schéma qui structure sa manière de penser sa carrière. Lorsque son frère est nommé préfet de la Loire en 1808, donc dans le Piémont, il relativise les difficultés qui attendent son frère grâce au travail de ceux qui, comme lui, officiers de gendarmerie, lui ont aplani le terrain. Il lui écrit « Tu vas habiter un pays que j'ai bien connu, et plus heureux que moi, tu vas l'habiter dans un moment où les habitants sont devenus meilleurs qu'ils ne l'étaient en l'an 10. Hein, » autrement dit, le rouleau compresseur de la gendarmerie aurait servi. L'action de ces missionnaires va cependant de pair avec le travail discret qui est accompli par les officiers indigènes. Giacomo, devenu Jacques Pavetti, est un Piémontais qui a dirigé la gendarmerie piémontaise à partir de novembre 1800, avant de devenir un officier français, officier à la tête de la 24e Légion de gendarmerie française au Piémont. Pour obtenir ces lettres de naturalité, pour être naturalisé sous la Restauration, parce que les ressortissants des anciens départements peuvent perdre cette nationalité, il mobilise un prestigieux réseau de garons, qui tous vantent son attachement pour la France. Et ceci salue, entre autres, la répression du brigandage menée par Pavetti. Mais c'est les modalités de la répression du brigandage par Pavetti qui frappent l'attention. Le maréchal de Combes, Pouget, précise qu'il est notoire que malgré son attachement bien sincère et très prononcé pour la France, il avait réussi à se concilier l'estime générale. En cela, Pavetti tranche avec le modèle précédent, celui d'officier efficace mais impopulaire. Ses origines piémontaises y contribuent non pas tant parce que ses collègues français seraient en butte à une hostilité, à une sourde hostilité parce que français, mais davantage parce que Pavetti est un notable enraciné dans la province, d'Ivrea. Richement possessionné, c'est un notable qui est en mesure de faire jouer sa puissance sociale pour appuyer, c'est essentiel, ses prérogatives d'officier. Et le procureur Chassagne suggère en quelque sorte secret de la réussite, que le Piémont étant passé sous le gouvernement de la France, M. Pavetti a été employé en qualité d'officier supérieur, chargé du commandement le plus important, celui de la force publique, et que dans son service, on lui a unanimement attribué la haute influence dont il jouissait sur les esprits, à l'usage qu'il faisait de ses moyens d'aisance particuliers, une part essentielle et principale au rétablissement de l'ordre et à la pacification du pays. Bref, les moyens et les méthodes propres à la gendarmerie n'entrent que pour partie dans les succès de Pavetti. Pour être opérationnel, l'arme a eu besoin de relais locaux et même de médiateurs prêts à payer des espions sur leurs deniers propres, comme cet officier Pavetti qui paye des espions, comme c'est suggéré dans les propos du procureur. Ce même Pavetti offre une clé d'entrée à la question des convictions politiques, c'est le troisième petit point sur lequel je terminerai, sur l'esprit de parti. De fait, malgré le conformisme qui prévaut sous Napoléon, il y a un esprit de parti. Les questions politiques n'ont pas disparu. Et cet esprit de parti, il est à prendre en compte pour cerner ce lien entre l'individuel et le collectif qui est susceptible d'éclairer les retours d'expérience. Lors de sa procédure de naturalisation, Pavetti ne manque pas d'affirmer qu'il brûle du désir de servir le roi. On aurait tort, c'est en 1814, on aurait tort d'y voir l'empressement d'une girouette, puisque pour accréditer la constance de son engagement au service de la France, Pavetti reconnaît, dans le même temps, avoir servi loyalement et jusqu'au bout Napoléon pour montrer son légalisme finalement au service de la France. Il ne craint pas d'expliquer qu'il a été scrupuleusement fidèle, et cela en décembre 1814, scrupuleusement fidèle au dernier gouvernement jusqu'à ce que j'ai eu bien officiellement, parce qu'il a été retardé à... Il a été un des derniers à mettre la cocarde blanche, la certitude qu'il avait cessé d'exister d'après le vœu de la nation, et ensuite qui avait rappelé Sa Majesté Louis le Désiré sur le trône. Il n'empêche, il reste malaisé d'apprécier les déclarations 1814-1815, qui sont soumises à tant de paramètres. Là où, pour prendre une figure un peu prestigieuse, Léopold Bouquet, inspecteur général, qui est aussi un officier fortuné, ne craint pas de rappeler, le 20 juillet 1815, qu'il a été chef d'état-major de Kléber. Donc il écrit aux autorités de la Restauration, il ne craint pas d'expliquer qu'il a appris, je cite, à l'école de ce grand homme, Kléber, à n'avoir rien de sacré que l'honneur, parce qu'il peut se le permettre, il est au fait de sa carrière, et l'adhérente. Mais un Brouzet, que l'on a évoqué, cet officier qui est ballotté sur les franchs-chauds de l'Empire, un Brouzet qui ne vit que de sa solde, lui est contraint à réinventer sa biographie tous les 6 mois. Et encore, il ne s'agit que de mensonges par omission, parce que sur fond de changement de régime, mais aussi sur fond de changement de souveraineté, hein, pour ce Turinois, mais en fait qui est d'origine genevoise, joueur française par les liens de la banque. Hein, son père était dans les finances. Brouzet a connu une carrière plurielle, mais qui est faite de cohérences successives. Si bien que tantôt, le 5 juin 1815, il écrit au ministre de la Guerre, hein, les lettres sont juxtaposées dans son dossier de personnel, il se souvient qu'il a été l'un des premiers officiers retirés à Lyon qui se sont enrôlés dans le corps dit du bataillon sacré. En fait, ce sont les demi-soldes qui sont montés à Paris pour appuyer la reprise des Tuileries, en quelque sorte, lors des 100 jours. Et tantôt, hein, en septembre 1815, il se souvient qu'étant au service du roi de Sardaigne, il a combattu durant plusieurs campagnes avec bravoure et avec zèle pour la cause des Bourbons. Hein, le même homme. Mais en vérité, il est vain de s'étonner sur l'éclatement des attitudes individuelles en 1814. La vraie question se pose en amont. Comment un corps composé d'éléments aussi dissemblables a-t-il pu servir avec unité ? Hein, et sans doute faut-il insister sur la dynamique révolutionnaire qui a vraiment bouleversé les types de carrières. Avant que le consulat, dans sa logique d'amalgame, de ralliement, de réconciliation, ne réunisse les vieux cadres de la maréchaussée, les officiers de cavalerie, les volontaires de la Révolution, les indigènes initialement favorables ou initialement hostiles à la France révolutionnaire. Si un équilibre a pu se maintenir, sans doute l'expansion territoriale a-t-elle eu sa part en permettant d'offrir des promotions, 40 nouvelles compagnies, hein, y a des postes à prendre, au sein d'un espace élargi et de brasser les hommes. Hein, c'était un des secrets de l'alchimie impériale. S'ajoute aussi peut-être, hein, pour les Français de l'intérieur, le facteur de cohésion signalé par Michael Bros, qui tient au fait de servir en présence de populations qui demeurent perçues comme étrangères. Hein. Et cette altérité essentielle fait passer au second plan les parcours politiques antagonistes. Un mot pour conclure, de même qu'il n'y aura pas de colonies sans coloniaux, de même il n'y a pas eu d'empire sans impériaux. Hein. Et c'est sur ce raisonnement qu'il faut partir pour approcher ces impériaux par excellence qu'ont été les officiers de gendarmerie dans les départements annexés. Ont-ils cru à l'Empire, hein, comme un projet à construire, ou n'y ont-ils vu que le prolongement de la France ? Hein, la question est ouverte, hein, il y a encore beaucoup à faire. Et en tout cas, ça réinterroge la problématique un peu trop générale qui érige ex officio, par le fait même de leur fonction, le gendarme en agent de l'État-nation. Si seuls quelques éléments de réponse, hein, peuvent être apportés, du moins doivent-ils être empruntés à la bonne source, c'est-à-dire respectueuses des propos des gendarmes pour ne plus les réduire à des agents inconscients d'une mission cachée, hein, comme on a pu l'écrire, qui les dépasse. Voilà, je vous remercie.